Bien, alors je rappelle tout d'abord les séminaires d'aujourd'hui qui est à 11h par François Miramet du laboratoire Kassler à Bruxelles, qui va nous parler de l'atome d'hydrogène, de l'électrodynamique quantique à la métrologie. Alors j'ai également les séminaires du mois de novembre, donc la semaine prochaine il n'y a donc ni cours ni séminaire. Le 7 novembre ce sera Christopher Foote du Clarendon Laboratory à Oxford, qui va nous parler de The Scissor Modes and Superfluidity of the Bose Condensed Gas. Le 14 novembre, ce sera Michel Broyer du laboratoire de spectrométrie ionique et moléculaire de Lyon, qui nous parlera de propriétés optiques et polarisabilité électrique des agrégats. Le 21 novembre, ce sera Gordon Bame, qui sera de passage à Paris pour cette semaine, qui est donc Gordon, qui est de l'Université of Illinois, Urbana-Champaign, Urbana-Illinois, qui nous parlera de spontaneous symmetry breaking and fragmented Bose condensates. Et enfin, le 28 novembre, ce sera Daniel Zaffman du Weizmann Institute, actuellement à Heidelberg, de l'Institut de physique nucléaire d'Heidelberg, qui nous parlera de trapping of fast ions, observation of self-bunching effects. Voilà donc pour les séminaires du mois le dernier séminaire d'octobre et le novembre. Alors, aujourd'hui, je voudrais tout d'abord terminer le chapitre 3 du cours que je n'ai fait que commencer la semaine dernière. Auparavant, j'ai résumé les résultats essentiels et les formules dont j'aurai besoin aujourd'hui sur cette partie du tableau. Je rappelle que oméga Q0, c'est la fréquence associée à l'énergie cinétique d'une particule d'impulsion Q, de vecteur d'onde Q, h bar Q2 sur 2m, et que pour étudier les excitations élémentaires du système de bosons, on a fait la théorie, je vous ai rappelé la théorie de Bogodubov, qui consiste à très basse température et à très faible densité, à négliger dans la Hamiltonienne tous les termes qui ne contiennent pas au moins deux opérateurs A0 ou A0 croix, ou A0 et l'état occupé, auquel cas on peut mettre la Hamiltonienne sous une forme quadratique très simple, H chapeau égale 0 plus somme sur K de H bar oméga KB, BK croix BK, où BK croix apparaît comme l'opérateur création d'une excitation élémentaire d'impulsion H bar K. BK croix est égal à une combinaison linéaire de AK croix et de A moins K avec des coefficients cosinus hyperbolique θ K et sinus hyperbolique θ K que j'ai calculé la semaine dernière. Alors, à cet égard, un des auditeurs m'a fait remarquer la semaine dernière que j'avais parlé d'une excitation élémentaire de quantité de mouvement H bar Q et quand on regarde H bar K, pourtant, quand on regarde cette expression, on voit K ici et moins K. Ça paraît bizarre. Mais en fait, c'est tout à fait correct quand même, parce que AK croix crée une particule d'impulsion H bar K, mais A moins K détruit une particule d'impulsion moins H bar K. Et enlever moins H bar K au système, c'est comme si on lui ajoutait plus H bar K. Donc cet opérateur-là, c'est un opérateur qui crée une particule d'impulsion H bar K et un trou d'impulsion H bar K, parce qu'on enlève une particule d'impulsion moins H bar K. Donc cet opérateur crée bien une excitation qui est une quantité de mouvement H bar K. Il y a conservation de la quantité de mouvement. Et j'ai montré que, en diagonalisant la matrice de transformation qui permet de diagonaliser H, que l'énergie des excitations élémentaires était donnée par cette forme, cette fameuse dispersion, relation de dispersion de Bogodubov, H bar oméga KB égale H bar oméga K0, racine carrée de H bar oméga K0, H bar oméga K0 plus 2 mu. Et je rappelle ici la relation de dispersion. Où vous voyez, c'est pas où j'ai. Il n'y a plus le pointeur. Bon. Où on voit ici donc la relation de dispersion en rouge qui part avec une pente C égale racine de mu sur m et qui tend vers une parabole, qui est la parabole ici tracée avec des pointillés bleus, qui est H bar K2 sur 2m plus le potentiel chimique mu. Autrement dit, pour des K très petits, on a une relation linéaire avec une excitation de type phonon, et pour K très grands, on a une excitation de type particule libre avec un déplacement par rapport à l'énergie d'une particule libre égale au potentiel chimique. Et puis la semaine dernière, j'ai calculé évidemment les éléments de matrice de Roku entre l'état fondamental psi 0, le vrai état fondamental du système, et l'état psi Q obtenu à partir de l'état fondamental en faisant agir cet opérateur de création. Et cet élément de matrice au carré, c'est n s de q, où s de q est le facteur de structure statique, et j'ai calculé en détail le facteur de structure statique, et j'ai montré que le facteur de structure statique s de q est égal au quotient de oméga q0, fréquence libre, divisé par oméga qb, fréquence de l'excitation élémentaire, et cette quantité, quand q tend vers 0, d'abord quand q est très grand, oméga qb tend vers oméga q0 plus mu qui est tout petit, donc ça vaut 1, donc pour un transfert d'impulsion très élevé, le facteur de structure statique est égal à 1, et il serait le même pour un gaz parfait libre, pour lequel mu égale 0, et pour q très petit, le facteur de structure statique, en prenant ceci étant q2, ceci étant q, donc c'est linéaire en q, le facteur de structure statique tend linéairement vers 0 comme q, ce qui montre que quand q tend vers 0, le condensat a de plus en plus de mal à absorber une quantité de mouvement q, et que le facteur de structure statique tend vers 0. Donc l'étude des variations des sections efficaces de diffusion quand q tend vers 0 est importante, parce qu'elle montre que le gaz est interagissant, et elle révèle des propriétés importantes de la fonction d'onde de l'état fondamental du gaz de boson. J'ai donné aussi une autre interprétation de cette décroissance linéaire en q, en montrant que d'après une règle de somme, le coefficient de compressibilité statique, qui est une constante, est égal, lui, à f de q divisé par q, et pour qu'il tende vers une constante quand q tend vers 0, il faut que f de q tende vers 0 linéairement en q. Voilà, j'ai donc étudié essentiellement la semaine dernière la diffusion d'un photon, et je voudrais maintenant passer au paragraphe suivant. Donc je suis toujours dans le cadre d'un condensat homogène. Et je voudrais aborder maintenant la diffusion d'un atome son. C'est plus un photon, c'est un atome. Et vous parlez du phénomène de superfluidité. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est étudier la section efficace de diffusion d'un atome qu'on envoie dans le condensat avec une vitesse V, et regarder la section efficace totale de diffusion. Ce n'est plus un photon maintenant, c'est un atome. Et ce que je voudrais montrer, c'est que quand la vitesse de cet atome diminue, et quand elle est en dessous d'une certaine valeur critique, à ce moment-là, la section efficace totale tend vers zéro, devient nulle, ce qui montre qu'à ce moment-là, la particule se propage dans le gaz de boson sans aucune interaction, sans aucune friction. C'est le phénomène de superfluidité. Et le phénomène de superfluidité, étudié non plus sur un objet macroscopique qu'on bouge dans le condensat, ou dans le superfluide, mais une particule microscopique, en l'occurrence un atome. Et ce que je voudrais aussi, sur l'expression obtenue, c'est distinguer ce qui provient dans la diminution de sigma, d'une part de la diminution du facteur de structure statique que j'ai étudié la semaine dernière, et d'autre part, ce qui provient du fait que, à cause de la différence des relations de dispersion de la particule libre qu'on envoie et des excitations élémentaires du condensat, il y a un phénomène qui apparaît en plus, qui est vraiment le phénomène typique de la superfluidité. Alors, je voudrais tout de suite dire que ce dont je vais parler aujourd'hui est tout à fait étroitement lié à des expériences actuelles, qui sont actuellement faites en particulier au laboratoire de Wolfgang Ketterle à MIT. Donc il y a un lien très étroit avec une expérience récente où l'atome sonde qu'on envoie dans le condensat est obtenu de manière très élégante en effectuant une transition Raman stimulée entre l'état Zeeman dans lequel les atomes sont condensés et un autre état Zeeman. On absorbe un photon, on émet de manière similaire un photon, donc on prépare un atome dans un autre niveau Zeeman, donc qui est discernable des atomes condensés, donc ils peuvent être considérés comme une sonde, c'est plus un atome du condensat, c'est un autre atome d'un autre sous-niveau magnétique, et en variant l'angle entre les deux faisceaux Raman qui induisent la transition simulée, on fait varier la transfert d'impulsion et donc la vitesse de la particule sonde. Et on peut étudier ainsi qu'est-ce qui arrive à cet atome dans un autre sous-niveau Zeeman qu'on envoie dans le condensat avec une vitesse qu'on fait varier de 0 à une valeur donnée. Alors, en toute rigueur, l'expérience est réalisée sur un condensat piégé, donc un condensat qui n'est pas homogène, qui est inhomogène, Mais une grande partie des calculs que je vais faire aujourd'hui s'appliquent aussi à ce cas-là, et j'étudierai, disons, je vais commencer aujourd'hui d'ailleurs, le problème du condensat inhomogène. Ça permet de dégager les idées physiques importantes en restant dans un problème qui peut faire l'objet de calculs analytiques. Donc, après avoir posé le problème, je peux maintenant calculer la section efficace. Et je vais m'intéresser à la section efficace totale. Alors, comme toujours, quand on part d'un problème d'interaction, il faut partir de la Hamiltonienne d'interaction. La Hamiltonienne d'interaction, je l'ai introduite dans un cours antérieur. Et il est écrit ici, il est somme sur Q, donc c'est en transparent V18, 1 sur L3, où L est le volume de la, L3 sur le volume de la droite, UQ c'est la transformée de Fourier du potentiel d'interaction, somme de D3R et puissance IQR U de R. Alors, j'ai rajouté des chapeaux parce que ça c'est un opérateur, ça c'est un opérateur. Et ρQ, c'est la transformée de Fourier de l'opérateur densité spatiale du problème, qui, comme toujours, joue un rôle fondamental dans ce type de problème. Alors, je prendrai, comme il est d'usage pour Hamiltonien d'interaction, un potentiel en delta de R, un pseudo-potentiel en delta de R, avec un coefficient G, qui est tout simplement 4 pi à la barre 2 sur M, petit a ou petit a, la longueur de diffusion. De sorte que la transformée de Fourier, si je reporte ceci là-dedans, la transformée de Fourier UQ, c'est 4 pi à la barre 2 sur A, et quand je remets ceci dans la Hamiltonienne d'interaction, j'obtiens A interaction et 4 pi s bar 2 sur ml cube, petit a, somme sur q de e puissance, somme sur q prime de e puissance moins i q prime r, rho q prime. Et je rajoute un chapeau ici à r. Alors, quels sont maintenant l'état initial et l'état final du processus de diffusion? État initial, l'atome arrive dans le condensat avec un vecteur d'onde k, et le condensat est dans l'état fondamental psi 0, dans le vrai état fondamental psi 0. Et l'énergie de cet état initial, c'est l'énergie cinétique, h bar k2 sur 2m, plus de la particule sonde, plus E0. L'énergie de l'état fondamental du condensat. L'atome sonde est diffusé, il passe de k à k moins q, donc il transfère au condensat une quantité de mouvement h bar q. Donc l'état final du système, c'est k moins q pour l'atome sonde, et psi q, l'excitation élémentaire de vecteur d'onde Q du condensat. Et quelle est l'énergie de l'état final? C'est l'énergie cinétique de l'atome sonde, qui est H bar K moins Q carré sur 2N, plus l'énergie du condensat, qui est E0 plus H bar oméga cubé, où oméga cubé est H bar oméga cubé, l'énergie d'une excitation élémentaire de vecteur d'onde Q. Et que vaut maintenant la probabilité de transition par unité de temps? Alors là, j'ai tout à fait le droit, sans me poser de problème, d'appliquer cette transition, parce que on a un continuum d'état final, puisque la particule diffusée peut avoir n'importe quel vecteur d'onde et n'importe quelle énergie. C'est donc 2π sur h bar, somme sur q, de l'élément de matrice de h interaction entre k psi 0 et k moins q psi q, en modulo carré, delta de e initial moins e final. Et dans la suite des calculs, je ferai tendre l vers l'infini, et je remplacerai sigma q par sigma q L3 sur 2π cube, mais ce n'est pas m, c'est 2π cube, somme de q2 et q2 oméga, où oméga est l'angle solide. Voilà la probabilité de transition par unité de temps. Alors, je remplace dans l'expression précédente l'élément de matrice de l'Hamiltonien d'interaction, qui est 4 pi h bar 2 sur ml3, petit a, que multiplie la partie relative au condensat, qui fait intervenir l'élément de matrice de ρQ entre psi 0 et psi q, et la partie relative à la particule sonde, qui fait intervenir l'élément de matrice de l'épuissance moins iqr, chapeau, entre k et k moins q. Et comme l'épuissance moins iqr, c'est un opérateur de translation, de quantité moins h bar q, cet élément de matrice est égal à 1. Donc, vous voyez, j'ai calculé l'élément de matrice qui est ici, en utilisant l'expression de H interaction. Alors, la probabilité de transition par unité de temps, le taux de diffusion gamma, il faut maintenant que je prenne 2π sur h bar, ceci au carré, la fonction delta de l'énergie, ceci au carré, l'élément de matrice relatif au condensat au carré, ben, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est psi q rho q psi 0 en module au carré, c'est ns de q ou s de q est égal à oméga q 0 sur oméga qb. Donc cette quantité est calculée. Et j'obtiens, en remplaçant donc, en élevant ceci au carré, ici je vais avoir un 16 fois 2, 16 pi 2 qui multiplie le 2 pi sur h bar, ça va me donner un 32 pi cube, un h bar 4, mais qui va être divisé par un h bar qui provient de la fonction delta de l'énergie et un h bar qui provient du 2 pi sur h bar, donc j'aurai 32 pi 3 h bar 2 sur m de l3, et le L6 que j'ai là, je le coupe en deux, un L3 ici et un N sur L3 ici pour faire apparaître la densité spatiale rho 0, somme sur Q de oméga Q0 sur oméga QB, delta de oméga moins oméga QB. Je remplace sigma cube par L3 sur 2 pi cube, somme de Q2 dQ de oméga, ça me fait partir ce L3 ici, et j'obtiens quelque chose où il n'y a plus de L, bien sûr, 4 H bar 2 sur M2, A2, le carré de la longueur de diffusion, rho 0, la densité spatiale de particules, somme de Q2 dQ de oméga, le facteur de structure oméga Q0 sur oméga QB, la fonction delta de conservation d'énergie, delta de oméga moins oméga QB. Je rappelle que qu'est-ce que c'est que oméga? Il faut que l'énergie d'excitation du condensat, oméga QB, soit égale à l'énergie perdue par la particule. Donc oméga, c'est l'énergie perdue par H bar oméga et l'énergie perdue par la particule. Donc oméga, c'est H bar K2 sur 2N, moins H bar K moins Q carré sur 2N. En développant ceci, le K2 s'en va et j'obtiens H bar K scalaire Q sur M, moins H bar Q2 sur 2N. Voilà l'expression de gamma. Alors, vous voyez apparaître ici A2, et A2, vous rappelez que quand deux particules interagissent avec une longueur de diffusion petit a, la section efficace totale de diffusion, c'est 4π A2. Donc, je vais pouvoir faire apparaître la section efficace de diffusion de deux particules qui interagissent avec une longueur de diffusion, un potentiel dont la longueur de diffusion est petit a. Alors, pour ce faire, je reviens à l'expression de gamma, et en faisant le raisonnement suivant. Si ce n'était pas un condensat, et s'ils avaient des particules indépendantes avec une densité spatiale rho 0, et s'il y avait une section efficace de diffusion, sigma, quel serait le taux de diffusion, la probabilité de transition par unité de temps? Ce serait tout simplement rho 0 sigma v, où rho 0 est la densité de particules cibles, sigma, la section efficace, et V, la vitesse de la particule projectile, la particule sonde. V, c'est H bar K sur M, c'est la vitesse de l'atome sonde, c'est la particule projectile qu'on envoie sur les particules cibles. Alors, si je reviens à l'expression précédente de gamma, que j'ai ici, j'ai rho 0 ici, donc il va simplifier. Quand j'écris gamma égale rho 0 sigma V, si je divise par V, je vais avoir, de cette expression, je vais obtenir sigma, une expression pour sigma. Et si je me rappelle que 4pi A2, c'est la section efficace de diffusion s'il n'y avait pas de condensat, je vais mettre sigma qui apparaît ici, sous la forme sigma 0, la section efficace correspondant à la longueur de diffusion A, que multiplie un facteur correctif grand F. Et ce qui m'intéresse, c'est le facteur correctif grand F. Et quand je fais ce calcul, qui est élémentaire donc, je trouve le facteur correctif lié au fait que l'atome sonde est diffusé non pas par un ensemble de particules indépendantes, mais par un condensat. Si c'était des particules indépendantes, j'aurais, pour le taux de diffusion ici, j'aurais rho 0, V sigma 0, où sigma 0 c'est 4pi A2. Sigma 0 n'est plus 4pi A2, c'est 4pi A2 qui multiplie F, et l'expression de F, elle est marquée ici, c'est H bar 2 sur pi M2, 1 sur V, somme sur Q2 dQ d oméga, oméga Q0 sur oméga QB, delta de oméga moins oméga QB. Alors, le problème à la symétrie de révolution autour de K, si j'appelle θ l'angle entre la vitesse initiale et le vecteur Q, le transfert d'impulsion, d oméga c'est 2pi sinus θ dθ, c'est donc 2π d de cosinus θ avec un signe moins, et j'intègre entre moins 1 et plus 1, en posant u égale cosinus θ, je fais pas un 2π qui va me simplifier le π qui est là et un 2 en haut. J'aurai donc f égale 2 h bar 2 sur m2, 1 sur v, somme de q2 dq, somme de moins 1 plus 1 de du, u c'est cosinus θ, oméga q0 sur oméga qb, delta de vqu, vqu c'est tout simplement q scalaire v, hein, q scalaire v c'est qv cosinus θ, moins h bar q2 sur 2m, moins oméga qb. Voilà l'expression de réduction de la section efficace de diffusion liée au phénomène de condensation. Et on voit apparaître dans ce facteur de réduction les deux facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure au début. Il y a d'abord ici un facteur oméga q0 sur oméga qb qui va diminuer et tendre vers 0 linéairement q quand q tend vers 0 dans l'intégrale sur q. Et il y a deuxièmement la fonction delta ici. La fonction delta ne donne une contribution que si son argument s'annule dans l'intervalle d'intégration. Si dans l'intervalle d'intégration, l'argument de la fonction delta ne s'annule pas, la fonction delta est strictement nulle. Et nous allons voir que c'est le cas et qu'il y a l'argument de la fonction delta ne s'annule pas quand la vitesse est inférieure à une certaine valeur critique, ce qui veut dire à ce moment-là que la section efficace est identiquement nulle. Que la relation de dispersion de l'atome sonde et la relation de dispersion des excitations élémentaires du condensat ne sont pas adaptées l'une à l'autre et le transfert ne peut pas se faire avec conservation simultanée de l'impulsion totale et de l'énergie totale. Nous avons maintenant une expression mathématique où les deux effets sont simultanément présents. Alors, je vais d'abord m'intéresser à l'argument de la fonction delta. Alors peut-être que je vais la réécrire au tableau parce que c'est important. La fonction delta, elle est ici. Je vais la réécrire au tableau pour qu'on l'ait sous les yeux. Delta de VQ moins H bar Q2 sur 2M moins oméga QD. Et je rappelle que U, c'est cosinus theta. C'est l'angle entre V et Q. Alors, la fonction de delta s'annule si U est égal, si ceci plus ceci est nul, c'est-à-dire si U est égal à H bar Q2 sur 2M plus oméga QB divisé par QV. Alors, le Q de H bar Q2 sur 2M se simplifie, il faut donc que j'ai U égale cosinus θ égale H bar Q sur 2M plus oméga QB sur Q que multiplie 1 sur V. Alors, si je reviens à la courbe qui donne oméga QB en rouge en fonction de Q, vous voyez que c'est une courbe qui est concave vers le haut et qui part avec une pente CQ. Donc, j'en déduis que si je prends oméga QB et que je le divise par Q, j'ai quelque chose qui va être toujours plus grand que C, hein, puisque c'est une courbe concave vers le haut qui part avec une pente C. Donc, j'en déduis que oméga QB sur Q est supérieur ou égal à C. L'égalité étant obtenue quand Q égale 0. Par ailleurs, Q dans l'expression QV cosinus θ, Q est par définition positif, puisque j'ai pris cosinus θ, l'angle entre Q et V. Donc, si je regarde cette équation, ceci c'est plus grand que C, ceci est positif, j'en déduis que U est donc supérieur ou égal à, je déduis ceci qui est positif, à oméga QB sur Q 1 sur V, et comme oméga QB sur Q est supérieur à C, j'en déduis que U est supérieur ou égal à C sur V. Donc la forme même du spectre d'excitation élémentaire montre que U est supérieur ou égal à C sur V. Or, U est cosinus θ. Et le cosinus θ doit forcément être inférieur à 1. Donc, on voit tout de suite que si V est plus petit que C, j'obtiens que U est plus grand qu'une quantité plus grande que 1, et donc ne peut pas convenir pour un cosinus θ. Donc, dans l'intervalle d'intégration de moins 1 à plus 1 sur U que j'ai tout à l'heure, l'argument de la fonction delta ne s'annule pas. Donc, la section efficace totale est rigoureusement nulle. Et ça, c'est l'argument de Landau pour expliquer la superfluidité. Il ne peut pas y avoir transfert d'impulsion et d'énergie avec conservation de l'énergie d'impulsion entre une particule d'impulsion matérielle, d'impulsion Hq, et une excitation élémentaire de type phonon. Alors, je vais maintenant essayer d'étudier comment on arrive à cette zone où ça devient impossible. Donc, je répète qu'en V plus petit que C, il n'y a pas d'interaction possible. La vitesse critique de l'atome son, donc au sein du superfluide, en dessous de laquelle il y a superfluidité, et donc la vitesse du son, c'est égal à racine de mu sur m. Alors, regardons maintenant ce qui se passe quand V est supérieur à C. Alors, je vais poser cette quantité-là. Alors, je vais écrire maintenant au tableau quelque chose de plus. Je vais réécrire l'expression de je retrouve mes notes. Je vais réécrire ici l'expression de h bar oméga cubé de manière un peu plus différente. J'ai h bar oméga cubé égale racine carrée de h bar oméga q0, c'est h bar q2 sur 2m. H bar 2 Q2 sur 2M plus 2 mu. Alors, ça je peux sortir ici, je vais avoir un H bar Q. Le 2M je le rentre là, donc j'ai H bar oméga QB égale H bar Q que multiplie H bar Q sur 2M au carré. J'ai h bar de q2 sur 2m au carré, plus 2 mu sur m, plus c2. Le tout, plus c2, le tout à la puissance 1 demi. J'en déduis donc que oméga qb sur q, simplifié par h bar, j'ai donc oméga qb sur q égale racine carrée de h bar q sur 2m au carré, plus C2. Et je vais poser, comme j'étais ici, C de Q égale H bar Q sur 2M plus oméga QB sur Q. C'est-à-dire H bar Q sur M, H bar Q sur 2M plus racine carrée de h bar q sur 2m au carré plus c2. Alors pourquoi je pose ça? C'est parce que l'équation qui me donne l'équation que j'ai ici me dit que u cosinus θ égale h bar q sur 2m plus oméga qb sur q, c'est-à-dire c de q sur v. Donc j'ai une si je vais trouver le cosinus θ qui marche pour un Q donné, il faut que j'écrive que U égale cosinus θ égale C de Q sur Q. Égale C de Q sur V, pardon. Donc, je vais faire maintenant une construction géométrique. J'ai U égale C de Q sur V et je trace ici, je vais tracer ici la courbe C de Q en fonction de Q. Alors, c'est une courbe qui est marquée ici, qui pour Q égale 0 est égal à C, C de Q est égal à C, et puis qui, quand Q tend vers l'infini, ça c'est négligeable, ça tend vers H bar Q sur 2M plus H bar Q sur 2M, ça tend vers une droite H bar Q sur M. Donc voilà la courbe qui me donne C de Q en fonction de Q. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve la solution de l'équation U égale C de Q sur V. Solution qui n'est acceptable que si U est plus petit que 1. Donc si C de Q est plus petit que V. Alors qu'est-ce que je fais? Je trace l'horizontale d'ordonnée V, qui est qui coupe la courbe C de Q en un point d'abscisse QM, et pour toute valeur de Q comprise entre 0 et QM, j'ai une solution acceptable, parce que C de Q sur V est plus petit que 1. Donc, quand, pour une vitesse V donnée de la particule sonde, les seules valeurs de Q qui sont accessibles dans l'intégrale sur Q et sur θ sont les valeurs comprises entre 0 et QM. Et pour chaque valeur de Q, je construis C de Q, et en prenant C de Q sur V, j'obtiens le θ correspondant. Et maintenant, je peux tracer une courbe polaire qui va me donner pour chaque valeur de Q, module de Q, le θ dans lequel est pointée la direction du vecteur Q. Alors, prenons d'abord Q égale 0. Si je prends Q égale 0, j'ai C de Q égale V, et cosinus θ, U égale C sur V. Si je prends Q égale QM, la valeur la plus grande, j'ai C de Q, pardon, j'ai ici C de Q égale C, bien sûr. Si pour Q égale 0, C de Q égale C, et C de Q sur V, c'est C sur V. Si je prends Q égale QM, j'ai C de QM égale V, et U égale V sur V égale 1. Et à ce moment-là, donc, je peux dessiner la courbe me donnant en coordonnées polaires. Je l'avais tout à l'heure. Je l'ai peut-être mise là. Ah oui, elle est là. Donc, vous voyez ici sur cette courbe, quand Q égale 0, θ a une valeur finie qui est cosinus θ égale C sur V, ça part comme ça, et quand Q prend sa valeur maximum, Q égale QM, j'ai θ égale 0. Donc la courbe qui me donne Q en fonction de θ a la forme d'une feuille de trèfle qui part avec un angle non nul ici, qui n'est pas érigé sur l'axe X, sur l'axe Y, et qui a cette forme-là. Et quand je fais l'intégrale sur Q et sur θ, je vais intégrer uniquement sur la surface que j'obtiens en faisant tourner cette feuille de trèfle autour de l'axe vertical, parce que le problème a la symétrie de révolution en U. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe pour Q très grand et pour Q très petit. Alors, pour Q très grand, si je prends Q très grand, décidément, je ne retrouve pas mes transparents aujourd'hui. Ah oui, voilà. Limite V très grande dans C. À ce moment-là, la courbe à l'origine, pour Q égale 0, U est égal à C divisé par quelque chose de très grand, donc U est tout petit, donc cosinus θ est tout petit, donc θ est très voisin de Q sur 2. Donc, quand U est très grand, la courbe part pratiquement avec une tangente horizontale. D'autre part, si je reviens à l'équation l'équation précédente, hein, U égale C de Q sur V, je cosinus θ égale C de Q sur V, si Q est très grand, C de Q est égal à H bar Q sur M, et j'obtiens à ce moment-là une équation Q égale MV sur H bar cosinus θ, donc la feuille de trèfle tout à l'heure, c'est un cercle. Et l'interprétation de ceci est très simple, je vais le faire ici, je ne l'ai pas fait dans les notes, je vais le faire ici, donc je peux effacer ça maintenant. Si Q est très grand, les excitations élémentaires du condensat sont de type particules libres, à part la petite correction d'énergie mu. Donc, j'ai vraiment une collision de particules libres, de même masse, puisque j'ai fait que changer de niveau Zeeman. La particule sonde a la même masse que les particules du condensat. Donc, initialement, j'ai une particule qui arrive sur le condensat avec la vitesse V, Et le condensat, lui, a une vitesse nulle. Les atomes du condensat ont une vitesse nulle. Ils sont condensés. Si je me place dans le référentiel du centre de masse, si je vais dans ce référentiel qui va au centre de masse, j'ai la collision entre une particule comme ceci et comme ceci. Les deux particules ont la même vitesse, vitesse opposée dans le système du centre de masse. Comme elles ont la même masse, la collision se fait sans changer la longueur du vecteur. Donc j'ai une particule qui va comme ça, et une particule qui va comme ça, avec toutes les valeurs possibles de l'angle de diffusion. Cette longueur est égale à celle-là, cette longueur est égale à celle-là. Quand je reviens au système du laboratoire, il faut que j'ajoute la vitesse de déplacement du centre de masse, et j'obtiens cette valeur-là, cette valeur-là. Donc, après la collision, la particule sonde et l'atome du condensat qui entre en collision donnent naissance à deux atomes de masse identique dont les vitesses sont dirigées de cette manière. Comme ça égale ça égale ça, ça c'est un triangle rectangle, et les extrémités de ce point sont sur un cercle, il n'est pas très beau, qui a pour diamètre la vitesse initiale. Donc, je retrouve le résultat. Donc, quand l'excitation élémentaire est de type particule, les états finaux de la particule sonde et de la particule cible sont répartis sur un cercle, et quand je fais tourner ce cercle, sur une sphère de rayon de diamètre V. Donc l'interprétation est claire. Et qu'est-ce qui se passe quand je diminue la vitesse de la particule? Donc j'ai tracé ici le cercle correspondant à un Q très très grand, et à ce moment-là, vous voyez que le diamètre du cercle est très grand. Quand je diminue la vitesse de la particule sonde, ce cercle va se transformer en une feuille de trèfle, et la longueur de cette feuille de trèfle va devenir de plus en plus petite. Et en fait, ma figure, je n'avais pas encore le logiciel de traitement de fonctions quand j'ai dessiné cette figure, mais il faudrait la refaire de manière... Je vais essayer de la refaire dans les notes qui seront sur le web. La courbe qui me donne C de Q, c'est une courbe comme ça, donc. Avec une asymptote ici. Et quand je coupe cette courbe par l'horizontale d'abscisse V, ici j'ai le QM correspondant au problème de la diffusion par un condensat, et ici j'ai le diamètre du cercle que j'aurais si la particule était libre, si elle n'était pas condensée. Et vous voyez donc que non seulement j'ai une feuille de trèfle qui occupe moins de surface que le cercle, mais la hauteur de la feuille de trèfle est plus petite que le cercle que j'aurais si les particules n'étaient pas condensées. Et puis quand je diminue la vitesse, la longueur de la feuille de trèfle et son angle diminuent de plus en plus, de même que l'angle au début, et arrive un moment, elle disparaît. Et c'est ce que j'ai dessiné ici. Quand on diminue la vitesse, la longueur de la feuille de trèfle diminue, l'angle d'ouverture devient de plus en plus petit, et elle s'évanouit complètement quand V égale C. Donc, vous voyez que cette étude géométrique montre très clairement comment... les problèmes d'espace de phase accessible dans la diffusion d'une particule qui a une relation de dispersion quadratique par un condensat qui a une relation de dispersion linéaire commence à tendre vers zéro quand la vitesse se rapproche de la vitesse critique. En plus, bien sûr, quand j'intègre sur Q, il y a le facteur S de Q qui devient de plus en plus petit quand Q tend vers zéro. Donc ça fait encore tendre plus vite la section efficace vers zéro. Alors, ceci, j'ai donné des arguments qualitatifs. Donc je vais essayer sur les notes qui seront sur le web de donner des courbes plus précises. Mais on peut aussi faire le calcul exact. Et je viens maintenant là-dessus. Alors, retour au calcul de F. Et je reviens à l'intégrale que j'avais tout à l'heure. Donc si V est supplétif C, F est strictement nul. Si V est supérieur à C, l'argument de la fonction delta s'annule pour une valeur euclide de U tant que Q reste compris entre 0 et QM, et à ce moment-là, l'intégrale sur U est triviale, c'est somme de moins 1 à plus 1 de delta de QV U moins UQ, où Q est la racine de l'équation, et cette intégrale vaut tout simplement 1 à un facteur 1 sur QV près. Quant à l'intégrale sur Q, quand on fait l'intégrale sur U, il ne reste plus que l'intégrale sur Q, et on a l'intégrale 2h bar 2 sur M2 V2, somme de 0 à Qm, de DQQ, oméga Q0 sur oméga QB, de 2h bar 2 sur M2 V2, somme de 0 à Qm de DQQ, h bar q sur 2m divisé par h bar q sur 2m au carré plus c2, et cette intégrale est calculable analytiquement. Je vous fais grâce des calculs qui sont donnés en détail dans les notes. Après un certain nombre de changements de variables, on peut calculer exactement cette intégrale. Alors, je signale simplement une erreur dans mes notes, c'est que le signe radical ici dans le transformant 88 englobe c2, bien sûr. Et quand on fait ce calcul, on trouve la chose suivante. On trouve que le facteur de réduction F de eta, si je pose eta égale V sur C, le rapport entre la vitesse de la particule et la vitesse du son, on trouve que F c'est 1 moins 1 sur eta 4, moins 4 sur eta 2, logarithme métérien de eta. Et cette courbe-là, qui elle est tracée exactement, donc c'est une courbe exacte, hein, me donne sigma sur sigma 0 en fonction de eta. On voit que c'est identiquement nul de 0 à 1, et puis ça croît tout doucement pour tendre vers 1, quand V devient très grand devant C. Donc on a ici la courbe qui donne la réduction de la section efficace liée au phénomène de superfluidité. Alors on pourrait, si on s'amusait, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait dans l'expression précédente remplacer oméga Q0 sur oméga QB par 1 pour se débarrasser du facteur de réduction de la section efficace liée à la diminution du facteur de structure statique, recalculer l'intégrale pour voir la contribution uniquement de la réduction de l'espace des phases lié au mismatch entre les deux relations de dispersion, et puis regarder la contribution séparée du facteur de diminution du facteur de structure statique et de la réduction de l'espace des phases. Voilà donc, en détail, il m'a semblé que c'était intéressant de faire ça en détail, et surtout d'avoir des constructions géométriques pour comprendre comment, au fur et à mesure qu'on diminuait, comment l'espace des phases accessible à la particule se réduisait pour introduire ces petites figures qui sont, à mon avis, extrêmement suggestives. Donc, j'en ai fini avec le paragraphe sur le condensat homogène. Et je passe maintenant à un nouveau chapitre que je vais commencer simplement aujourd'hui sur les condensats inhomogènes. Alors, le but de ce chapitre, c'est effectivement de discuter des phénomènes nouveaux qui apparaissent quand on a un condensat qui, au lieu d'être homogène, est inhomogène. Alors, on va en faire la liste très rapidement. D'abord, dans le cas du condensat homogène, qu'est-ce qu'on avait comme longueur caractéristique? On n'avait pas tellement, on avait petit a, la longueur de diffusion, la distance moyenne entre atomes, qui est liée à ρ0, et la longueur de relaxation, healing length, que j'avais appelé ξ0. Quand on met un condensat maintenant piégé, on voit apparaître une longueur supplémentaire qui est le rayon du condensat. Le condensat est piégé, il a donc une dimension finie. On voit apparaître une grandeur finie nouvelle qui est R0, le rayon du condensat. Quand je dis rayon, c'est un rayon moyen parce que si le condensat est anisotrope, il a une longueur qui peut être beaucoup plus grande que la largeur, mais typiquement, il y a les longueurs caractéristiques du piège. Deuxièmement, du moment que le condensat est piégé, il a une longueur caractéristique et il a un delta X fini. S'il a un delta X fini, il y a un delta P à cause de la relation d'incertitude. Donc il y a une dispersion de vitesse dans l'état condensé. Alors que dans un condensat homogène, toutes les particules dans le condensat ont la même impulsion qui est nulle. Donc pour un condensat homogène, delta P égale 0. Si on prend une boîte infinie, bien sûr. Pour un condensat piégé, comme delta X est fini, delta P est fini. Donc delta V est fini, il y a une dispersion de vitesse. Et donc, dans les expériences de diffusion, il y a une largeur Doppler. Il faut donc introduire la largeur Doppler correspondant à la dispersion de vitesse. Ceci est intéressant, d'ailleurs, parce que, en regardant l'élargissement Doppler du spectre, on peut mesurer delta V, donc delta P, et donc delta X, et voir si la longueur de cohérence du condensat est bien sa dimension, ou si elle est plus petite. Troisième point, la densité d'atomes dans le condensat devient inhomogène. Dans un condensat homogène, la densité spatiale est la même partout. Dans un condensat inhomogène, il y a plus d'atomes au centre que sur les bords du piège. Et par conséquent, les effets liés aux interactions vont être inhomogènes. Les déplacements liés aux interactions vont être inhomogènes. Donc c'est ces trois types d'effets que je voudrais donc étudier maintenant. Et je vais commencer, si vous voulez bien, par étudier les caractéristiques du piège, caractérisation. Alors, évidemment, dans un piège, j'ai un potentiel de piégeage que je vais supposer harmonique pour simplifier. Donc, 1 demi de m oméga 0 x au carré x2 plus oméga 0 y au carré y2 plus oméga 0 z carré z2. Et je vais tout de suite me placer dans la limite de Thomas Fermi où j'ai beaucoup d'atomes dans le piège, c'est-à-dire où n, le nombre d'atomes à la longueur de division divisé par sigma ou sigma est la dimension caractéristique de la fonction d'onde de l'état fondamental du piège. Racine de carré de h bar sur m oméga 0 bar, oméga 0 bar est une moyenne géométrique de oméga 0 x, oméga 0 y, oméga 0 z. Et supposer que ce nombre est plus grand que 1. À ce moment-là, on a le terme d'énergie cinétique dans l'équation de Gross-Pitewski et devient négligeable. On peut le sortir. À ce moment-là, l'équation de Gross-Pitewski devient une équation algébrique qui me donne la forme de la fonction d'onde, le carré de la fonction d'onde, qui est une parabole inversée. J'ai fait ça en détail dans le cours 98-99. Je n'y reviens pas. Je dis simplement que à ce moment-là, on a l'équation de Gross-Pitewski devient ceci. Et j'appelle mu, alors ça par contre c'est important, mu c'est le potentiel chimique. Et si je me place, mu est indépendant de R, bien sûr, le potentiel chimique est indépendant de R. Si je me place dans R égale 0, le potentiel est nul. Et j'ai donc mu en simplifiant par psi de R. J'ai mu égale G psi de R égale 0 au carré. Donc le potentiel chimique dans un condensat inhomogène, c'est G que multiplie ρ0, où ρ0 c'est la densité au centre du piège. À ce moment-là, quand je prends l'équation de Gross-Pitewski, elle me dit simplement que la densité d'atomes dans le condensat est tout simplement une parabole inversée, qui est de la forme ρ0 égale ρ égale ρ de R égale ρ0, 1 moins x sur x0 carré, moins y sur y0 carré, moins z sur z0 carré, où les quantités x0, y0, z0 sont définies par 1 demi de m oméga 0x au carré, x02 égale mu, et des équations identiques pour y0, z0. Simplement, l'extrémité du condensat, c'est le point où l'énergie potentielle est égale au potentiel chimique. Évidemment, vous regardez, le domaine de définition de x, y, z est tel que ρ reste positif. ρ est une densité, doit être positif. Alors, pour les calculs que l'on fait dans ce type de problème, il est commode de changer de variable et de redéfinir les variables en unité de x0, y0, z0. J'introduis donc x tilde, y tilde, z tilde par ces trois équations. J'appelle r tilde le vecteur de composante x tilde, y tilde, z tilde. À ce moment-là, ρ prend une expression très simple. ρ de r tilde, c'est ρ0, 1 moins r2. Donc, à ce moment-là, avec ces nouvelles variables, ρ ne dépend que du module de r tilde. Évidemment, r tilde, pour que ρ soit positif, varie entre 0 et 1. Et à ce moment-là, je peux calculer immédiatement le nombre total d'atomes en intégrant ρ entre sur x tilde, y tilde, z tilde, avec r tilde variant entre 0 et 1. Et un calcul sans difficulté montre que n, le nombre total d'atomes, c'est 8 pi sur 15, ρ0 que multiplie x0, y0, z0. Alors, ces calculs préliminaires étant faits, je vais maintenant, je pense que c'est très important pour la suite de ce cours, et pour la suite d'ailleurs de toute la discussion sur les condensats, d'introduire dans l'échelle des valeurs du nombre d'ondes Q un certain nombre de repères. Donc, j'aborde un deuxième paragraphe qui est quelques repères importants sur l'échelle des Q. Alors, première longueur, première valeur caractéristique, comme j'ai dit tout à l'heure, le condensat a un rayon fini, R0, et évidemment, il y a un nombre d'ondes associées qui est 1 sur R0. En définissant R0 comme la moyenne géométrique de X0, Y0, Z0, les points où la densité spatiale s'annule le long de X, le long de Y et le long de Z. Et donc, j'ai une première valeur de Q qui apparaît, qui est 1 sur R0, et je vais me limiter dans ce qui suit aux valeurs de Q grandes devant 1 sur R0. Parce que les valeurs de Q proches de 1 sur R0, les excitations qui ont des longueurs d'onde de l'ordre des dimensions du condensat, c'est les premiers modes de vibration du condensat que j'ai étudié en détail il y a 2 ans, je crois. Les modes de quadripolaires, les modes scalaires. D'ailleurs, tous les autres modes sont des modes de ce type, mais ils ont à ce moment-là une longueur d'onde beaucoup plus petite que le rayon du condensat, et c'est à cela que je vais m'intéresser dans la suite. Deuxième longueur caractéristique qu'on introduit, et qui existe également pour un condensat homogène, c'est la longueur de relaxation, phi 0, ou la healing length en anglais, et phi 0 égale 1 sur racine de 8 pi rho 0 a. Et à partir de cette longueur de relaxation, on peut introduire un nombre d'ondes, 1 sur x 0, l'inverse d'une longueur, et qui est important parce que si je reviens au spectre des excitations élémentaires du condensat, pour Q plus petit que 1 sur x0, on est dans la zone linéaire ici, et pour Q très grand devant 1 sur x0, on est dans la zone quadratique. Autrement dit, dans un condensat homogène, Q plus grand que 1 sur x0 et Q plus petit que 1 sur x0 décrivent respectivement les excitations de type particule libre, où l'énergie est tout simplement de la forme alpha oméga Q0 plus éventuellement une correction mu, et les excitations de type phonon, où les excitations sont de type phonon avec h bar oméga qb égale cq, où c'est la vitesse du son. Donc ça c'est une deuxième longueur caractéristique, une deuxième vecteur d'onde caractéristique. Alors, le fait que le condensat a un rayon fini va me permettre maintenant d'introduire une troisième longueur caractéristique qui joue un rôle très important dans ces problèmes, et qui est la suivante. L'idée est la suivante. Pour quelle valeur de Q, pour quelle valeur du transfert d'impulsion, le déplacement Doppler est-il du même ordre que le déplacement dû aux interactions? Puisque je vous ai montré que, comme je vous ai plutôt indiqué, que comme le condensat a une dimension finie, il a une dispersion de vitesse et donc un effet Doppler. Donc, pour quelle valeur de Q, le déplacement Doppler est-il du même ordre de grandeur que celui dû aux interactions? D'abord, quel est l'ordre de grandeur du déplacement dû aux interactions? Dans un condensat homogène, l'énergie des excitations élémentaires de vecteurs d'onde Q vaut pour Q très grand, elles sont ici, H bar Q2 sur 2M plus mu. D'accord? La parabole vers laquelle la courbe rouge tend ici n'est pas la parabole qui part de l'origine, mais c'est une parabole qui part avec une ordonnée à l'origine qui est égale à mu, donc il y a un déplacement lié aux interactions. Et pour un condensat homogène, ce déplacement est le même partout. D'accord? Quand Q est grand. Donc, le delta E interaction pour un condensat homogène avec Q suffisamment grand est de l'ordre de mu. Le potentiel chimique caractérise le déplacement dû aux interactions. Par ailleurs, dans un condensat homogène, les particules sont condensées dans un état de vitesse nulle, il n'y a pas d'effet Doppler, puisque QV est nul, puisque V pour les atomes condensés sont nuls. Dans un condensat inhomogène, il y a une dispersion de vitesse liée à la taille finie du condensat, qui est h bar sur mr0, delta v. Donc le spectre de diffusion subit dans un transfert d'impulsion h bar q, subit un effet Doppler, inhomogène, donc une largeur Doppler, dont l'ordre de grandeur est de l'ordre de h bar q delta v, en unité d'énergie. Donc je multiplie l'expression supérieure par h bar q, et j'obtiens h bar 2q sur mr0. Et dans un condensat homogène, j'ai aussi un déplacement lié aux interactions. Inhomogène, j'ai un déplacement lié aux interactions qui est de l'ordre de mu. Et pour quelle valeur de Q, donc maintenant j'ai delta E interaction de l'ordre de delta E Doppler, j'appelle QD cette valeur de Q, il faut donc que j'ai h bar 2QD sur mr0 de l'ordre de mu. Mu c'est g0, et rho 0, G, c'est 4 pi h bar 2 sur m a, les h bar 2 sur m s'en vont, et j'obtiens que d égale 4 pi a rho 0 r 0, et 4 pi a rho 0, à un facteur 2 près, c'est 8 pi a rho 0, c'est xi 0 2. Non, c'est 1 sur xi 0 2. D'accord? Donc, QD, c'est de l'ordre de grandeur de R0 sur Xi 0 2. Et je vois donc apparaître une nouvelle échelle de longueur, de vecteur d'onde, QD, qui est QD égale R0 sur Xi 0 2, que je peux encore écrire sous la forme 1 sur Xi 0, R0 sur Xi 0. Et j'ai oublié de te dire tout à l'heure, je m'en excuse, que dans la plupart des condensats, R0, la longueur du condensat, est beaucoup plus grande que la longueur de relaxation Xi 0. Donc, comme échelle de longueur, j'ai R0, et puis j'ai xi 0, la longueur de relaxation, donc R0 est très petit devant xi 0. Non, R0 est très grand devant xi 0, excusez-moi, et donc QD est très grand devant 1 sur xi 0. Donc, j'ai dans l'échelle des valeurs de Q, maintenant je crois que le plus simple c'est de donner la figure. Ça c'est une figure très importante pour la suite, qui récapitule cette discussion. Voilà l'échelle des valeurs de Q. 0, puis Q. 1 sur R0, où R0 est la dimension du condensat. Et ici, c'est les premiers modes propres de vibration du condensat. 1 sur Xi 0. Xi 0 est beaucoup plus petit que R0, donc c'est ici. Alors, pour Q plus petit qu'un Xi 0, c'est H bar oméga Q 0, beaucoup plus petit que mu, c'est l'excitation de type phonon. Et pour H bar Q plus grand que 1 sur Xi 0, c'est H bar oméga Q 0 plus grand que mu, et j'ai des excitations de type particule libre. Ensuite, je vois apparaître maintenant une troisième valeur caractéristique, QD, qui est R0 sur Xi 0 2, qui est beaucoup plus grande que 1 sur Xi 0, et dans cette région-là, j'ai delta E Doppler plus grand que delta E interaction, et dans cette région-là, j'ai delta E interaction plus grand que delta E Doppler. Mais dans les deux cas, j'ai des particules libres. Donc vous voyez, maintenant, il y a trois zones qu'il faut qu'on étudie, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, je vais encore dire deux mots avant de m'arrêter, parce que je vais réinterpréter la condition delta E interaction de l'ordre de delta E Doppler. Je vais supposer, donc, troisièmement, je vais commencer simplement le paragraphe 3. Étude du domaine. Q très très supérieur à QD. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé cette figure, il faut la garder. Je vais commencer par étudier ce domaine-là. Q très très grand devant QD. Q très grand devant R0 sur Xi0,2. Le domaine où delta E Doppler est plus grand que delta E interaction. Et je vais réinterpréter la condition Q supérieur à QD. En effet, je suis, quand Q est supérieur à QD, je suis dans la région oméga, H bar oméga Q0 très très grande devant mu, et l'excitation créée par la particule sonde est de type particule libre, avec une énergie de la forme H bar oméga, H bar Q2 sur 2M plus mu. Je m'excuse, il manque un H bar 2. Donc le second terme, mu, est le terme lié aux interactions. Quand la particule est créée, quand l'excitation est créée par la particule sonde, l'atome cible qui a été excité, il a une vitesse. Comme il est pratiquement libre, il a une vitesse h bar q sur m. Et puis il va quitter le condensat, parce qu'il a une vitesse donnée, il va quitter le condensat. Quel est le temps au bout duquel il quitte le condensat? Il a une vitesse h bar q sur m, le condensat a un rayon R0, donc il va quitter le condensat au bout d'un temps R0 divisé par h bar q sur m, qui est mR0 sur h bar q. Et il va ressentir l'interaction avec le condensat que tant qu'il est dedans. Il va ressentir l'effet des interactions pendant ce temps tôt. Alors, les interactions ont un ordre de grandeur mu. Il sent ces interactions pendant un temps tôt que je viens de calculer. Le déphasage de la fonction d'onde lié à cette interaction, subie pendant un tantôt, va être de l'ordre de phi égale nul, l'ordre de grandeur de l'interaction, que multiplie tau, le temps pendant lequel il l'a subi, divisé par h bar. Et je viens de calculer la valeur de tau que j'ai calculée tout à l'heure, c'est R0 sur H bar Q, MR0 sur H bar Q. Quand je remplace tau par sa valeur précédente, j'obtiens que phi égale MR0 sur H bar de Q, petit m. Je remplace mu par G rho 0, 4pi H bar 2 A rho 0 sur m. Les H bar 2 sur m sont bons. Et je trouve que phi, le déphasage subi par la particule créée par l'excitation pendant le temps qu'elle met pour traverser le condenseur, c'est 4pi A R0, rho 0, R0 sur Q, c'est R0 sur Q, Xi 0, 2. Et je vois apparaître le rapport R0 sur Xi 0, 2, le QD, divisé par Q. Donc la condition Q supérieure, très supérieure à R0 sur Xi 0, 2, ça veut dire que ce nombre est tout petit. Ça veut dire que je suis dans un régime où la particule qui est créée par l'excitation est tellement rapide que le déphasage qu'elle subit avant de quitter le condenseur est négligeable. Donc je peux la considérer comme réellement libre, et dans l'hamiltonien qui décrit l'excitation élémentaire, oublier complètement les interactions. Les interactions n'ont pas le temps de se manifester pendant le temps que passe la particule excitée dans le condenseur. Alors attention ici, il faut bien distinguer entre déphasage absolu et déphasage relatif. Dans tout le domaine que j'ai ici, de là à là, dans tout le domaine qui est défini par 1 sur phi 0, j'ai h bar oméga q 0 beaucoup plus grand que mu. Si je multiplie les deux membres de cette inégalité par tau, j'ai h bar oméga q 0 tau très très grand devant mu tau. Donc le déphasage lié à l'évolution libre, h bar oméga q 0 tau, est toujours plus grand que le déphasage lié aux interactions. Aussi bien là que là. Mais ce qui est en plus ici, c'est que mu tau est plus petit que 1, divisé par h bar, bien sûr. Autrement dit, le déphasage lié aux interactions est non seulement petit devant le déphasage lié aux interactions libres, il est aussi petit en valeur absolue. Donc je peux réellement négliger. Alors qu'ici, tout en étant petit devant le déphasage lié à l'évolution libre, il est grand en valeur absolue. Donc ce domaine-là, je peux vraiment oublier complètement les interactions. Alors que dans ce domaine-là, je les oublie pas, mais c'est une correction par rapport au déphasage lié aux interactions. Le déphasage lié à l'évolution libre reste essentiel. Alors, je vais m'arrêter là parce que je n'aurai pas le temps de prendre. Ce que je vais vous montrer ensuite, tout de suite à partir de cette idée, je vais vous montrer à ce moment-là que dans ce domaine-là, le spectre est complètement dominé par l'effet Doppler. La largeur et la position du spectre sont complètement dominées par l'effet Doppler, et on peut complètement oublier les interactions. Et ceci est vrai, ceci ne résulte pas d'une approximation sur la fonction d'onde de l'état fondamental du condensat. C'est vrai quel que soit psi 0, même quand psi 0 inclut l'effet des interactions. Et c'est très important, ça veut dire qu'à diffusion, à suffisamment haute énergie, la diffusion renseigne sur la dispersion de vitesse et donc sur la dispersion d'impulsion, quelle que soit l'importance des interactions dans l'état fondamental. Par contre, ici, je dirais que le spectre est dominé entièrement par les interactions. Évidemment, il y a un problème difficile, c'est le voisinage de ce point-là, où les deux effets Doppler et interaction sont du même ordre de grandeur et qui nécessitent un traitement particulier. Et enfin, ce domaine-là, lui, c'est le domaine des phonons. Bon, je m'arrêterai là et je reprendrai donc à la prochaine fois, je terminerai le cas du condensat inhomogène, ce sera donc le 7 novembre. Avant de vous apparaître, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Même en séance ici. Chris, il n'y a pas de... Toi, tu poses des questions. Bon.